Vous écoutez RFI, il est 22h à Paris, 2h de moins en temps universel.
Clémentine Pavlotsky.
Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal en français facile, présenté ce soir avec Sylvie Perruet. Bonsoir Sylvie.
Bonsoir Clémentine, bonsoir à tous.
La France ne décolère pas, l'Australie a rompu le contrat du siècle avec Paris au profit des États-Unis. Il portait sur la construction de sous-marins.
Elle est la quatrième femme à occuper un tel poste au Royaume-Uni. Liz Truss a été nommée ministre des Affaires étrangères. Portrait à suivre dans ce journal.
Le président russe Vladimir Poutine, obligé de se placer à l'isolement. Un cluster de Covid-19 a été découvert au Kremlin. Plusieurs membres de l'entourage du dirigeant seraient contaminés.
Et puis à Paris, en France, l'Arc de Triomphe est désormais empaqueté. Il est recouvert de 25 000 mètres carrés de tissu. Une œuvre de l'artiste contemporain Christo.
Un journal.
Le journal en français facile.
En français facile.
L'affaire des sous-marins australiens tourne à la crise diplomatique entre la France et les États-Unis.
Oui, l'Australie a décidé de rompre un contrat avec la France, un contrat de 31 milliards de dollars portant sur la construction de sous-marins. À la place, le pays a conclu un autre accord avec les États-Unis et le Royaume-Uni pour des sous-marins nucléaires. Cette décision provoque la colère de Paris. Les autorités françaises dénoncent un coup dans le dos, une décision brutale et insupportable. Cette décision en dit long aussi sur la volonté des États-Unis de renforcer leur présence dans la zone Indo-Pacifique, notamment face à la Chine. Mais cette politique de Washington n'est pas nouvelle. Explication de Romain Lemaresquier.
Après le retrait américain d'Afghanistan, les États-Unis ont, semble-t-il, décidé de jeter toutes leurs forces dans leur politique de sécurité dans la zone Indo-Pacifique. Une réponse aux velléités chinoises dans cette zone du monde très disputée depuis des années. Cette politique américaine n'est pas nouvelle. La secrétaire d'État Hillary Clinton en avait fait une priorité en 2007. Mais depuis, les printemps arabes et la situation en Afghanistan avaient plus ou moins mis entre parenthèses cette nouvelle approche géostratégique que même Donald Trump partageait. Joe Biden a décidé d'accélérer en scellant une alliance avec l'Australie et le Royaume-Uni, au risque de se brouiller avec un partenaire de longue date, en l'occurrence la France. Le président américain a également annoncé la tenue d'une réunion du Quad le 24 septembre prochain à Washington, avec la présence des premiers ministres australiens, indiens et japonais, et ce afin de relancer un format diplomatique qui végétait depuis plusieurs années et qui doit désormais jouer un rôle central pour préserver la paix et la sécurité dans cette région. Pour la Chine, qui condamne la vente de sous-marins nucléaires américains à l'Australie, la nouvelle alliance scellée entre ces pays est, selon elle, une nouvelle qui pourrait tout simplement saper le calme apparent qui règne dans cette région.
Et toujours au sujet de cette crise des sous-marins, on a appris que la France avait annulé une célébration prévue à Washington, aux États-Unis. Plus d'informations à suivre dans nos prochaines éditions.
La France, Clémentine, ou la chancelière allemande Angela Merkel poursuit sa tournée d'adieu.
Elle dînait ce soir avec le président Emmanuel Macron. La chancelière allemande cédera sa place à son successeur après les législatives du 26 septembre en Allemagne. D'ici là, les deux responsables politiques ont promis de continuer à travailler main dans la main.
C'est le visage du remaniement ministériel au Royaume-Uni. Liz Truss devient la patronne de la diplomatie britannique.
Oui, et la nouvelle ministre des Affaires étrangères est la quatrième femme de l'histoire à occuper ce poste dans le pays. Elle devrait très vite se faire un nom. Son portrait est signé Vincent Souriot.
À 46 ans, diplômée d'Oxford, libérale et pro-Brexit, Liz Truss est déjà le chouchou des sympathisants conservateurs. Avec 85% d'opinion favorable, elle caracolait la semaine dernière en tête des ministres les plus appréciés. La frange droitière des Tories adore son patriotisme revendiqué et sa détestation de l'État-providence. Depuis 2 ans, elle détenait le portefeuille du commerce international, elle y a signé plusieurs accords de libre-échange et s'y est forgé une réputation de grande travailleuse. En matière de politique étrangère, on l'a dit, assez hostile à la Chine, car elle s'est illustrée par des déclarations vigoureuses taclant aussi bien le sort des Ouïghours au Xinjiang que les arrangements du gouvernement chinois avec la propriété intellectuelle. Son premier déplacement en tant que chef de la diplomatie britannique pourrait avoir lieu dès la semaine prochaine à l'occasion de l'Assemblée générale de l'ONU à New York.
Des précisions signées Vincent Souriau.
La chef de la diplomatie néerlandaise a quant à elle démissionné.
La ministre néerlandaise des Affaires étrangères des Pays-Bas, Sigrid Kaag, a annoncé sa démission aujourd'hui après que les députés ont formellement critiqué sa gestion de l'évacuation d'Afghanistan. Les parlementaires ont adopté une motion critiquant le gouvernement pour avoir échoué à évacuer certains Afghans et pour n'avoir pas anticipé les signes de la prise du pouvoir rapide par les talibans. Voici ce qu'a déclaré la ministre. La Chambre considère que le gouvernement a agi de manière irresponsable. Dans ma conception de la démocratie et de notre tradition de gouvernement, un ministre doit partir si sa politique est dénoncée. À noter que sa démission survient au lendemain du limogeage du ministre britannique des Affaires étrangères, Dominic Raab, lui aussi en raison de sa gestion de la crise afghane.
L'Afrique va manquer de près de 500 millions de vaccins contre le Covid-19.
Oui, c'est l'Organisation mondiale de la santé qui l'affirme. L'initiative COVAX, qui devait permettre de distribuer ces vaccins sur le continent, en a reçu moins que prévu. Et ce, alors que l'Afrique a franchi cette semaine la barre des 8 millions d'infections selon l'OMS.
Et justement, Clémentine, à propos du Covid-19, un cluster a été découvert au Kremlin. Un cluster, un foyer donc.
Exactement, et le siège du gouvernement russe est actuellement en état d'alerte. L'entourage du président Vladimir Poutine serait largement contaminé. Résultat, le dirigeant a dû annuler ses déplacements. Il est actuellement à l'isolement à Moscou. Anissa El-Jabri.
Rattrapé par le Covid jusque dans son cercle rapproché. Jusqu'ici, Vladimir Poutine avait pourtant pris des mesures drastiques, 14 jours d'isolement imposés aux rares personnes autorisées à le rencontrer. Devant ses alliés d'Asie centrale et de Chine réunis dans la capitale tadjik, le président russe s'est expliqué ce matin via vidéoconférence.
Malheureusement, j'ai dû annuler mon déplacement, je le regrette beaucoup, mais la raison est que dans mon proche entourage, comme vous le savez, des cas de coronavirus ont été détectés. Et il ne s'agit pas d'une ou deux personnes, mais de dizaines de personnes. Je dois donc me mettre en confinement pendant quelques jours.
Certains médias russes murmurent que cela a aussi permis au président de sécher physiquement cette rencontre. Question de standing, son homologue chinois avait annulé. Ce retour à l'isolement sonne en tout cas comme un rappel de la grande difficulté qu'a la Russie à enrayer la pandémie. Le pays est un des plus endeuillés au monde, méfiant à peine un quart des Russes sont aujourd'hui vaccinés. Quant aux mesures de distanciation sociale et au port du masque, elles sont respectées par une petite minorité. Après les élections ce week-end, le pouvoir pourrait d'ailleurs serrer la vis. Anissa El-Jabri, Moscou, RFI.
En Argentine, journée de mobilisation.
Plusieurs dizaines de milliers de personnes ont manifesté à Buenos Aires, la capitale. Elles réclamaient de meilleures conditions de vie. L'appel à manifester avait été lancé par des mouvements de gauche. Ces derniers réclament plus d'aide pour faire face aux conséquences de la pandémie de Covid-19.
Le journal en français facile.
En France, l'empaquetage de l'Arc de Triomphe à Paris est quasiment terminé.
Oui, l'empaquetage, c'est l'emballage de l'Arc de Triomphe. Il est désormais entièrement recouvert de tissu. C'est une œuvre posthume de l'artiste contemporain Christo. Posthume, cela veut dire réalisé après sa mort. Puisque le plasticien est décédé l'an dernier, il a fallu 25 000 mètres carrés de tissu recyclé pour réaliser cette œuvre. Edmond Sadaka.
Cela faisait plusieurs dizaines d'années que Christo rêvait de ce projet. Il voulait faire en sorte que l'Arc de Triomphe devienne, l'espace de quelques semaines, un objet vivant qui va s'animer et dont la surface, disait-il, va devenir sensuelle. Le projet, d'un coût de 14 millions d'euros, a été entièrement autofinancé grâce à la vente d'œuvres originales de l'artiste. Ce jeudi matin, la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, a décrit cette œuvre comme un formidable présent aux Parisiens, aux Français et à tous les amateurs d'art. Quant à Bruno Cordeau, l'administrateur de l'Arc de Triomphe, il appelle le public à profiter de ce moment éphémère.
L'occasion qui nous est donnée là, c'est de nous réunir tous ensemble autour d'une œuvre d'art et sans risque, puisque finalement elle va disparaître de toute façon. Donc il faut venir vivre le moment, l'apprécier, le critiquer, peu importe. On a le droit de se chipouiller autour d'une œuvre d'art, au contraire, c'est même plutôt bien. Et puis ensuite, on retrouvera l'art tel qu'il est, tel qu'on le connaît, tel qu'on l'aime, tel qu'il existe depuis presque 2 siècles maintenant.
Et pour permettre au public de se rendre plus facilement sur les lieux, la place de l'Étoile, l'un des points cardinaux de la capitale, sera fermée à la circulation tous les week-ends jusqu'au 3 octobre, date du démantèlement.
Le goût du monde.